BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business.
Bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va vous parler de data, d'IA, de edge et surtout d'usine du futur. Alors on vous parle d'usine 2.0, l'usine 4.0. Non, là, on va essayer de regarder un peu tout ça parce qu'on vous parle évidemment beaucoup d'IA, comment l'IA générative transforme évidemment dans les classiques assistants de bureau. Ben dans l'industrie, c'est beaucoup plus physique. Et on va en parler avec nos deux invités. Raphaël Viard, bonjour.
Bonjour.
Raphaël, merci d'être avec nous. Vous êtes directeur de l'information digitale de Forvia, donc l'un de nos leaders mondiaux dans les technologies automobiles. C'est 130 000 employés dans 40 pays et 26 milliards d'euros en 2025. Et avec nous, Jean-Christophe Lessy, bonjour.
Bonjour, Frédéric.
Jean-Christophe, partenaire au BCG, ancien DSI, ça fait quelques années maintenant, mais qui connaît parfaitement ce métier pour être au cœur dans chacune des missions au sein du BCG. Raphaël, l'IA, c'est pas juste chez Forvia, j'imagine, on fait pas juste de l'IA pour dire voilà, regardez, on est comme les autres, on se modernise, mais ça change vraiment la donne. Et là, sur la partie industrielle, hein, parce que j'imagine que, évidemment, je parlais d'assistants de bureau, ça doit beaucoup changer, même vous au quotidien, mais dans les sites industriels, qu'est-ce que ça change?
Alors, c'est au cœur de notre stratégie. On a dévoilé le 26 février dernier notre nouveau plan stratégique qui s'appelle Ignite, qui est composé de deux phases. Une phase 2026-2028 où nous allons nous concentrer sur nos fondamentaux opérationnels et financiers pour construire des fondations solides qui vont nous emmener à retrouver de la croissance à partir de 2028. Et on voit bien que la data et l'IA sont au cœur
Surtout dans le secteur automobile. On voit bien, voilà, il faut trouver des relais de croissance.
C'est parce que ça va nous apporter de la compétitivité, parce que ça va nous apporter de l'innovation, parce que ça va nous apporter de la transformation. On a déjà des belles réussites. Je peux citer notamment une de nos usines en Chine, Yancheng, qui a été nommée Lighthouse, on peut dire usine phare, par le World Economic Forum, où on a déployé déjà plus de 40 cas d'usage data et IA.
Vous avez déjà des indicateurs
qui... Oui, tout à fait. On a des réussites assez fortes dans ce domaine. Par exemple, dans cette usine, le retour sur investissement est de 7 mois et demi pour tous ces cas d'usage IA. Et je peux donner cet exemple où quand on change des outils, quand on change de batch de production et qu'on doit changer les outils dans une machine, on a réduit ce temps de changement de quasiment 46% grâce à des algorithmes d'intelligence artificielle qui nous permettent de mieux redémarrer les machines après ces changements.
Ça veut dire qu'il y a aussi de la formation autour de tout ça, parce qu'évidemment il y a ces machines, il y a ces robots, mais il y a aussi des humains derrière.
Bien sûr, il y a un énorme agenda de changement dans l'usine et aussi au niveau du leadership de l'entreprise, hein, puisqu'en fait c'est quelque chose qu'on ne peut pas réussir sans y mettre de l'impact et du temps. Donc en fait, dans cette transformation, notamment dans cette usine de Yancheng, c'était le patron de l'usine qui était au cœur de la transformation.
Alors ça, c'est un exemple très concret, Jean-Christophe, et ça, c'est important parce que je crois que le BCG vient de sortir une étude qui s'appelle le Value Gap, et donc pour montrer un peu un fossé ou une fracture, je ne sais pas comment il faut l'appeler, peut-être les deux, qui existe dans les entreprises, et là, il faut faire attention parce que le fossé peut vite...
Le fossé est très large, en fait. Cette étude Value Gap là, que vous mentionnez, elle montre que seulement 5% des entreprises tire une valeur massive et mesurable de l'IA. Donc, et puis on a tout un ventre mou du 60-70% des entreprises en fait qui sont un peu perdues dans le purgatoire des pilotes, qui font des expérimentations beaucoup, mais qui n'arrivent pas à trouver le bon ROI. Et la différence entre ce qu'on appelle les entreprises prêtes pour le futur et celles qui le sont pas ou moins, elle est énorme. On a mesuré dans cette étude justement que il y avait les entreprises prêtes pour le futur généraient 70% de revenus supplémentaires et 60% de marge EBIT en plus par rapport à leurs concurrents qui sont moins prêtes. Donc on voit que c'est absolument massif et que l'écart se creuse très très vite. Et ça c'est alors comment elles font les entreprises prêtes pour le futur? En fait, elles se perdent pas dans des expérimentations.
Oui.
Elles injectent massivement de l'IA dans les process, dans leur core business. Alors principalement aujourd'hui ce qu'on voit, parce que c'est là qu'il y a le...
On est dans l'industrie, hein, je rappelle.
Oui, oui, c'est cours, principalement le manufacturing, la supply chain et les ventes. C'est les trois gros process qui ont un potentiel de valeur le potentiel de valeur le plus élevé. Et donc, elles reconstruisent en fait leur processus quasiment à partir de zéro, en mettant de l'IA et en injectant de l'IA massivement.
Alors, pour dans ce domaine industriel, pour que l'IA fonctionne, il faut en mettre évidemment dans la machine. Le problème, c'est quand on discute, j'étais à Global Industries il y a quelques semaines, toutes les machines, elles ne parlent pas le même langage. Et c'est un peu ça la difficulté. J'imagine chez Forvia, c'est pareil. Vous avez vous intégrez différents constructeurs, c'est tout un écosystème qui n'est pas forcément habitué à travailler ensemble. Or là, on parle de data, donc il faut essayer de faire travailler tout ça. Comment on fait ?
Eh bien, je vais utiliser un terme barbare. Il faut mettre en place une ontologie. Alors, c'est quoi l'ontologie ? En fait, c'est une espèce de couche d'abstraction qui est en fait le dictionnaire qui donne un sens commun aux données dont on fait l'acquisition et qui permet de parler un langage commun au sein de l'entreprise, que ça soit le business avec l'IT, mais maintenant que ça soit le business avec l'IT, avec des agents IA, parce que tout le monde doit parler le même langage pour être capable d'analyser correctement les données et de prendre des décisions. Et cette couche d'abstraction qui est l'ontologie, elle nécessite d'être construite au fur et à mesure. Et quand on a des nouvelles données qui arrivent, parfois l'ontologie existe déjà et il n'y a pas de problème. Et parfois, comme dans une langue un peu vivante, l'ontologie n'existe pas et il faut la créer pour être capable de stocker correctement ces données pour qu'elles soient exploitées après. Alors nous, on a commencé cet exercice il y a beaucoup de temps, enfin il y a 5 ans à peu près, et c'est assez mature. Ça nous a permis notamment de déployer un outil qui nous permet de mesurer la performance de nos lignes de production, pour mesurer les déviations et alerter immédiatement nos opérateurs et ce qu'on appelle nos gap leaders, les responsables des équipes de ces déviations. On a déployé aujourd'hui quasiment 200 usines avec le même outil. Et ça aurait été évidemment impossible sans cette ontologie, parce que sinon, il aurait fallu refaire à chaque fois l'exercice de déploiement et recommencer à zéro à chaque usine, ce qui aurait été un temps complètement impossible.
Alors ça veut dire, Jean-Christophe, aussi en termes d'infrastructure, c'est que les données, on les fait pas toutes remonter dans un cloud général. C'est là où, parce que en présentation, je parlais du edge, donc avoir aussi des données au plus proche de l'usine, au plus proche des machines. Et c'est ça ce qui est prôné aujourd'hui.
Oui, il faut un mix en fait. Mais effectivement, les usines, elles tournent en temps réel, donc on n'a pas le temps d'attendre que pour un robot la donnée parte sur un système centralisé, revienne. Donc voilà. Donc là, le edge en fait, ça répond à deux enjeux, à la fois un enjeu physique et un enjeu de gestion de risque. Le physique, c'est ce qui va tourner autour de la latence, puisque il y a besoin de temps réel dans une usine. Il y a aussi la résilience, puisqu'il faut quand même que l'usine elle puisse tourner quand il y a des problèmes sur Internet et des problèmes de connectivité. Donc, elle peut pas s'arrêter. Et donc, voilà. Et le troisième point, c'est la confidentialité, parce que la plupart des industriels n'aiment pas bien révéler leurs petits secrets de fabrication et leur secret sauce, comme on dit en bon français. Et donc, ça permet aussi de garder un certain nombre de données local, sur place, qui ne voyage pas.
Et alors, autre révolution aussi dans tout ça, c'est l'arrivée des agents IA. Alors, on parle beaucoup des agents IA dans tout un tas d'autres secteurs, mais dans l'industrie aussi, on a ces agents IA qui arrivent, notamment chez vous, chez Ford.
Alors oui, ils arrivent surtout, ils vont arriver dans les usines. Ça reste quand même des technologies qui sont assez récentes. Et comme je le disais auparavant, pour que les agents fonctionnent, il faut quand même qu'ils s'appuient sur une couche de données de bonne qualité. Toutefois, il y a assez facilement deux exemples que je peux donner. Notamment, le premier, c'est tous les agents qui peuvent aider à la maintenance industrielle. Donc, aider les mainteneurs à réparer plus vite, à analyser les causes de problèmes, à réparer et à apprendre de ces problèmes. Ça, c'est un premier cas d'usage. Le deuxième cas d'usage, c'est toute la supervision de la supply chain, de la chaîne logistique, parce que souvent, c'est des informations qui viennent de sources différentes. Ça peut venir par email, ça peut venir des ERP, ça peut venir d'autres systèmes. Et avoir des agents qui sont capables de lire toutes ces données et de donner des prédictions pour savoir si typiquement on va arriver en problème d'approvisionnement dans une usine, c'est super important et c'est plutôt un cas d'usage dont on pense qu'il va fonctionner plus bien.
Je disais, ça fait des temps le temps moyen de réparation qui est réduit de 30 à 40%.
Alors ça,
on est quand même là dans des enjeux assez sérieux.
Voit, effectivement.
Dernier point, c'est l'humain. Alors je sais qu'on dit toujours, les deux tiers, c'est l'humain, c'est toujours le cas
dans un peu plus des deux tiers, parce que nous, on a la règle des 10-20-70. Hein, donc c'est 10% d'algorithmes, 20% de technologie et puis 70% d'humains et de process. Donc et c'est vrai que et les exemples qu'a cité Raphaël le montrent bien. Si vous oubliez l'humain dans votre déploiement, votre IA reste au placard. Hein. Mm-hmm. Elle n'ira pas beaucoup plus loin. Donc c'est fondamental.
Et donc il faut de l'humain. On parlait des agents. On parlait dans d'autres sessions. On parlait aussi de tous les robots, alors humanoïdes ou pas, mais en tout cas les robots, puisqu'il en existe évidemment. Vous en avez déjà beaucoup, mais ils vont arriver. Ça veut dire qu'il va falloir apprendre à gérer tout ça.
Alors oui, on a des robots sur nos chaînes. Maintenant, effectivement, on voit que les humanoïdes arrivent et effectivement, dans un futur qui va être plus ou moins proche, on va avoir une cohabitation entre des humains, des humanoïdes, des agents IA. Et bon, soyons clairs, personne ne sait vraiment
comment ça va évoluer.
Hein, ça reste quand même quelque chose qui est très nouveau. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ça montre que les stratégies qu'on pouvait avoir avant, à 3, 4 ou 5 ans, avec une grosse planification, elles ne sont plus trop d'actualité parce qu'il faut s'adapter très vite. Donc, ce qui est important, c'est les cycles courts, c'est apprendre vite, s'arrêter très vite quand ça ne marche pas, pour se focaliser sur d'autres sujets où peut-être ça va marcher.
C'est-à-dire davantage d'agilité dans un monde industriel qu'on imaginait beaucoup plus figé, avec des cycles longs, etc.
Bien sûr. Après, il faut aussi constater que la transformation IA, elle fonctionne plutôt bien dans des processus qui sont assez peu attachés au monde physique. Mm-hmm. Par exemple, le développement software, les achats. Dès qu'on arrive dans un monde qui est plus physique comme les usines, il y a un temps de changement qui est incompressible. Et là, il faut vraiment mettre l'humain au cœur de cette transformation. Parce que sinon, ça ne pourra pas marcher. C'est l'humain et c'est le leadership. Hein. C'est vraiment réussir sa transformation IA. C'est vraiment un travail d'équipe entre toutes les composantes du métier, les composantes de l'IT et surtout un écosystème qui vient autour avec des partenaires. Parce que si on ne travaille pas en équipe, on n'a aucune chance d'y arriver.
Bien, merci à tous les deux d'être venus parler de tout ça. On n'arrête pas d'insister toujours sur ce côté humain. Évidemment, on est fasciné par cette technologie, mais voilà, on le dit, le leadership, la gouvernance, la formation sont des points essentiels aussi pour mener ces projets à bien. Merci à tous les deux. Raphaël Viard, directeur de l'information digitale de Forvia, et Jean-Christophe Lassy, partenaire au BCG. Vous pourrez retrouver, bien entendu, toutes ces sessions BFM Stratégie en replay, en podcast sur notre site. À très bientôt pour un nouveau BFM Stratégie.
BFM Stratégie sur BFM Business.